Hello, bienvenue dans un nouvel épisode bilan de semaine de la construction de mon business Boule à Facettes. Donc, on est sur la semaine 5. Désolée pour ma voix, j'ai attrapé froid, donc j'ai pas la voix exactement de d'habitude. Donc, cette semaine, ça a été une semaine relativement tranquille. Ça s'explique notamment par le fait que je suis rentrée dans la phase de mon cycle féminin de règles et que, comme je l'ai dit dans un précédent épisode, ça a toujours une influence sur mon énergie. Je dirais qu'à peu près un jour avant mes règles et les jours qui suivent des règles, je sens vraiment un changement d'énergie par rapport à d'autres périodes du mois ou de mon cycle où je peux être très, très énergie masculine, très à fond dans l'action, etc. Là, je suis plus dans une énergie où déjà, je sens que je suis plus fatiguée, j'ai moins d'énergie, j'ai moins de clarté mentale et j'ai pas la capacité de faire autant de choses que je peux faire dans d'autres périodes. Et par contre, ce qui est intéressant dans une période comme celle-là, c'est que je trouve que ça nous invite à justement un peu se poser et prendre du recul, vu qu'on n'est pas à fond dans l'action. Moi, c'est vraiment, j'essaie vraiment de surfer là-dessus et de suivre ce que je ressens. Et en principe, ce que je ressens, c'est que je me pose des questions, je suis peut-être un peu plus dans le doute. C'est un peu comme si je faisais le bilan de où j'en suis par rapport au plan que j'avais eu, que j'avais fait peut-être un mois avant. Et je fais un peu le bilan là-dessus, je m'autorise à remettre les choses en question, à revoir ma copie, à me dire bah, peut-être qu'il faut que je mette à jour certains projets, certaines façons de fonctionner. Donc je trouve que c'est toujours intéressant une période comme ça, même si on n'est pas à fond dans l'action, on est dans autre chose en fait, qui à mes yeux fait quand même progresser son entrepreneuriat et son écologie personnelle du fait qu'on va se poser ces questions-là. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi cette semaine? Dans cette semaine, on va dire particulière, il s'est quand même passé pas mal de réflexions, justement. Donc, je vais commencer par une réflexion que j'ai eue sur les contenus gratuits, puisque je m'étais dit la semaine dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, que je voulais vraiment repartir sur un rythme régulier de création de contenu, et notamment un article par semaine et un post Insta par semaine. Il y a aussi ce podcast, mais lui, je sens que c'est bon, j'arrive à le faire. En fait, le fait que ce soit à l'oral, ça m'aide puisque j'ai beaucoup moins besoin de quelque part de clarté mentale pour écrire quelque chose de structuré. Je peux un peu plus raconter comme ça me vient et c'est un petit peu plus facile. Donc, j'arrive à tenir le rythme pour l'instant de ce podcast. En revanche, ce qui s'est passé pour Insta et l'article. Donc, côté Insta, le lundi, je me suis dit, ben, on va faire comme la semaine dernière, je vais commencer par ça. Comme ça, c'est fait, j'ai plus besoin d'y penser pendant le reste de la semaine et je vais pouvoir être plus tranquille dans le reste de ma semaine et faire d'autres choses qui me plaisent. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que lundi, en m'y mettant, j'avais pas du tout d'inspiration, j'ai vraiment bugué. J'essayais de me concentrer et de me dire quel message j'aimerais faire passer cette semaine, etc. Ça voulait pas venir. Donc j'ai fini par arrêter et me dire je vais remettre ça au lendemain. Et le lendemain, pareil, j'ai rebloqué et donc j'ai décidé que ça m'allait pas en fait de décider un jour particulier pour bosser sur le post Instagram parce que j'ai vraiment besoin de sentir que j'ai une inspiration quand même pour écrire. Le problème, c'est que si je fais pas attention et que j'attends juste l'inspiration, ben je peux aussi me retrouver à ne pas écrire de post pendant plusieurs semaines d'affilée. Donc je me suis dit qu'un juste milieu, ce serait en fait, pendant la semaine, d'être attentive à des petites vagues d'inspiration. Ça m'arrive parfois quand je suis en train de bosser sur autre chose. D'un coup, je me dis « Ah, tiens, j'ai tel message que j'aimerais faire passer sur Instagram. J'ai envie d'écrire là-dessus, par exemple sur l'écologie personnelle ou sur le business Boule à Facettes. » Souvent, c'est quand même beaucoup autour de l'écologie personnelle. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'avais un petit soupçon d'inspiration, plutôt que de juste noter l'idée, je prenais le temps d'écrire déjà plusieurs phrases en fait, comme si j'écrivais le post. Bon, parfois j'ai même écrit plus et ça fait beaucoup plus qu'un post Instagram, mais je me dis comme ça, après je peux revenir dessus et c'est plus facile d'utiliser ce contenu qui est déjà quand même à un certain degré fait et de juste finaliser en créant le visuel, en vérifiant le nombre de mots, etc. Mais au moins j'ai le fond, j'ai la matière et si j'ai suffisamment développé l'idée au moment où ça m'est venu, je vais pouvoir plus facilement me remettre dans le bain et me souvenir de ce que je voulais dire que si j'ai juste noté une phrase. Donc, je me suis dit que j'allais essayer de procéder comme ça pour Instagram. Alors, peut-être, j'imagine que la conséquence de ça, c'est que je vais sûrement pas publier de façon à un jour... je vais peut-être pas publier toujours le même jour d'une semaine sur l'autre. Mais on va dire que pour l'instant, on va accepter de juste publier un post Instagram dans la semaine, quel que soit le jour, même si c'était pas le même que la semaine d'avant. Ensuite, pour l'article... il s'est passé quelque chose d'un peu similaire. Alors, la différence, c'est que là, donc j'avais un sujet en tête, j'ai commencé à bosser dessus, ça m'a fait comme la semaine d'avant, à savoir que c'était un petit peu difficile de rentrer dans le sujet, mais j'ai un petit peu poussé pour quand même essayer d'écrire deux, trois trucs, de me dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter là-dedans. J'ai quand même commencé à écrire l'article, mais j'ai quand même eu cette sensation un peu d'être en train de me forcer à créer, à produire un contenu avant une certaine échéance, alors que c'était pas forcément obligatoire. Je pense qu'au début, c'était important, quand j'étais au début du blog, de créer un article par semaine, parce que bah déjà, ça, c'est un entraînement, en fait, d'écrire. Ça permet de un peu mettre en route la machine et de pas se rouiller dès le début. Et voilà, et de développer le contenu qui, derrière, va se capitaliser et fait que on va avoir un trafic qui augmente. Mais aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai mon blog, j'ai 150 articles sur le blog. Je pense que c'est plus obligatoire pour moi vraiment de publier toutes les semaines absolument. En revanche, quelque chose qui, je pense, me conviendrait mieux, c'est d'avoir une approche un petit peu plus stratégique. C'est-à-dire de... je vois deux choses dans la stratégie. Une première partie de la stratégie, c'est d'écrire des articles qui vont me permettre d'attirer des personnes que j'aimerais avoir comme clientes parce qu'elles vont être intéressées par les sujets que je traite à la fois en gratuit et en payant. Donc ça va être tout ce qui est autour de l'écologie personnelle et du business boule à facettes, ça n'a pas changé. Mais je ne ressens pas forcément le besoin ou je ne pense pas avoir vraiment besoin de me forcer à écrire un article par semaine pour attirer des personnes parce que là, je suis quand même sur un projet de plusieurs mois. Mettons sur 4 mois, si déjà j'écris 5-6 articles, je pense que c'est déjà pas mal. Donc 5-6 articles, ça en fait juste un ou deux par mois, donc ça fait pas un toutes les semaines. Et je pense, c'est une hypothèse, que ça suffirait pour cette partie-là. Et l'autre partie que je vois une approche stratégique, c'est d'écrire des articles qui sont directement liés au contenu payant que je vais créer. Parce que ça permet, en écrivant un article, dans cet article, de parler, en fait, d'amener le sujet et de proposer aux personnes peut-être d'aller plus loin si ça les intéresse via un programme ou quelque chose que j'aurais créé. Donc là, il se trouve que j'en ai pas sous la main, mais je me dis que voilà, c'est deux choses qui peuvent être combinées, de penser le contenu payant et le contenu gratuit en même temps et finalement de publier un article qui est directement lié à ça. Donc, j'ai pas publié mon article la semaine dernière parce que, premièrement, j'avais pas beaucoup d'énergie et pas beaucoup de clarté mentale et du coup, c'était assez laborieux d'écrire cet article. Donc, j'ai préféré, pour ma propre écologie personnelle, repousser ça à un moment où ça me viendrait plus facilement et je sais que ça revient dans d'autres phases de mon mois et de mon cycle. Et puis, deuxièmement, je me suis aussi dit que ça pouvait être plus une meilleure stratégie de publier peut-être plus tard, à un moment où ça serait lié à quelque chose que je vais créer de façon payante. Donc ça, c'était un peu mes réflexions de la semaine sur les contenus gratuits. Ensuite, il s'est passé quelque chose autour des programmes en ligne, puisque cette semaine, j'avais prévu de vendre un programme que j'avais enregistré cet été. J'avais pas écrit les emails de vente, mais j'avais préparé, on va dire, tout le fond, tout le contenu, en m'aidant un peu d'une trame, on va dire, qui aide à se dire, ben, le jour 1, je vais parler de ça, le jour 2, je vais parler de ça, etc. C'est une trame un peu de copywriting que j'utilise, que j'ai eu en fait dans un programme d'Antoine BM. Et qui, lui, vend des programmes un peu comme moi, ce qu'il appelle des petits produits, c'est-à-dire entre 50 et 100 euros, qui durent en principe normalement autour de 3 heures. Bon, moi, en l'occurrence, le programme que j'ai créé là dure 8 heures, il a 8 heures de vidéo. Et donc, cette semaine, en fait, j'ai dû m'occuper de préparer les emails de vente puisque je ne les avais pas écrits auparavant. Donc ça prend quand même pas mal de temps de faire ça et ça prend notamment de la ressource vu que ça reste de l'écriture, ça prend de la ressource intellectuelle de réfléchir au sujet, à comment moi je veux parler de ce sujet dans mon email, à l'écrire, etc. De base, les emails de vente, c'est pas ce que je préfère écrire, c'est pas mon contenu favori parce que c'est une certaine approche. Moi, je préfère le contenu un peu plus éducatif, on va dire, où j'apporte de la valeur. Or, dans une phase de vente, c'est pas le même contenu. On est plus en train de réfléchir à bien faire comprendre ce qu'il y a dans le programme et on est presque dans une forme d'argumentation, de dire... voilà pourquoi je pense que ce programme est intéressant et à qui il correspond et ce qu'il va t'apporter. Donc, ça force à penser à des choses auxquelles on n'a pas besoin de penser quand on est juste en création de valeur. Et même si de base, ce n'est pas le type d'email que je préfère écrire, l'avantage que je trouve quand même à l'écriture de ces emails, c'est que finalement, je trouve qu'elle demande peut-être moins de ressources quelque part que un email qui est plus personnel où je porte vraiment une réflexion, enfin où je crée de la valeur. Et l'avantage, c'est que dans une période comme celle dans laquelle j'étais, c'était plus facile pour moi de me dire bon bah je prends vu que j'avais préparé le fond, bah je reprends le fond, ce que j'avais noté sur mon carnet et j'en fais un email. Ça me demandait moins de ressources de faire ça dans cette période. Donc finalement, c'était pas si mal de devoir faire ça dans une période où je manquais d'énergie et de clarté mentale pour créer autre chose, quelque chose plus de l'ordre de la réflexion. Donc ça, c'était pas trop mal à retenir pour la suite. Après, moi, je me pose des questions en fait sur la vente. Je me pose des questions à chaque fois que je suis amenée à vendre puisque il y a vraiment plein d'approches dans la vente et je pense que je suis encore dans cette exploration de trouver comment est-ce que moi je me sens à l'aise de vendre les choses. Et donc je suis partie d'une façon de vendre qui m'a été conseillée, on va dire, quand je parle du copywriting, que je dis que j'utilise une trame, c'est celle de quelqu'un d'autre. Donc c'est quelqu'un d'autre qui a réussi à vendre de cette façon-là, qui dit comment il fait. Et moi, je l'adapte à ce que je fais sur les sujets et à ma façon de parler en essayant de rester un maximum authentique. Donc, je pars de cette trame-là. Mais je sens que, en fait, je suis dans cette exploration où j'essaye de trouver le juste milieu entre j'utilise une trame dont je sais qu'elle a fonctionné pour d'autres et qui est particulière puisqu'on parle de vente. En gros, je considère que je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire pour la création de valeur puisque je sais naturellement ce dont j'ai envie de parler, les réflexions que je porte, etc. Par contre, sur la vente, c'est quand même quelque chose de différent, c'est une approche différente. Ici, il ne faut pas seulement apporter de la valeur, il faut comprendre un peu le processus psychologique des personnes, qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir sur ce qu'on essaye de vendre pour décider si elles ont envie de l'acheter ou pas. Donc, la trame de copywriting, elle aide à ne pas oublier de mentionner certaines choses que naturellement j'aurais peut-être oublié de mentionner. Ou alors peut-être que j'aurais fait un email beaucoup plus long, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus fourni, sans parler de l'essentiel qui est le contenu du programme. Donc l'exploration que je fais, c'est trouver le juste milieu entre ça. Donc j'appellerais ça... des emails plus succincts qui vont droit au but et peut-être plus percutants pour faire comprendre ce qu'il y a dans le contenu payant qu'on propose pour que les personnes puissent se décider. Et une approche plus, que j'appellerais naturelle, où on ne se pose pas trop de questions, on dit ce qu'on pense qu'on a besoin de dire sur le programme le jour J et on le dit. Ça, c'est d'ailleurs l'approche d'Amanda Frances, qui est une entrepreneure que je suis pas mal, qui elle est beaucoup plus dans avoir une approche naturelle tous les jours. Elle, quand elle est en phase de vente, tous les jours, elle se demande qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre de ma part aujourd'hui vis-à-vis de ce truc que je suis en train de vendre. Donc, elle a pas, c'est pas mental, c'est pas préparé à l'avance, c'est chaque jour, elle se pose la question et donc chaque jour, elle écrit un texte lié à ce qu'elle vend. Et donc, c'est pas tellement copywriting. Après, elle est absolument convaincue de ce qu'elle vend. Elle va chercher l'argumentation profondément parce que comme elle est convaincue, elle est à fond dans son truc, ça fait pas forcément C'est pas seulement de la création de valeur qu'elle écrit. Elle écrit quand même dans le but de vendre, mais dans le but de montrer l'intérêt de ce qu'elle vend. Donc, moi, j'aime bien cette approche-là. C'est un peu l'approche que j'ai eue d'ailleurs pour mon précédent programme, Embrasser sa nature, où là, j'avais pas suivi une trame de copywriting, j'avais écrit naturellement. Et c'est un peu difficile de comparer, en fait, de faire un peu le test pour savoir, en fait, comparer les méthodes, parce que la seule façon de comparer ces deux méthodes, ça serait de vendre le même programme au même moment, aux mêmes personnes, mais en envoyant deux types d'emails différents, une série copywriting et une série naturelle pour qu'on puisse comparer quelle série a le plus converti. Or, et pour moi, il faudrait le faire auprès des mêmes personnes pour que ces personnes puissent limite dire bah, « cette série, elle m'a plus convaincue que l'autre ». Sauf que c'est un peu compliqué à mettre en place, ça fait envoyer double d'emails aux personnes, il faudrait que les personnes soient presque prêtes à nous faire un retour là-dessus. Donc pourquoi pas, hein, c'est quelque chose qui peut être fait. Après, ça demande quand même pas mal de travail et ça demande d'avoir des personnes prêtes à faire un feedback là-dessus. Ce feedback, on peut peut-être aussi l'obtenir juste en ayant envoyé les emails qu'on a envoyés, en demandant aux personnes qu'est-ce qui t'a convaincu dans cet email. Chose que je n'ai pas faite jusqu'à présent, mais pourquoi pas, ça peut être une idée. En tout cas, là, moi, ce mois-ci, j'ai vendu deux programmes. Un avec cette approche vente naturelle et un avec une approche vente copywriting. Il se trouve que j'ai fait plus de ventes avec le deuxième. Mais est-ce que c'est parce que les emails étaient mieux ou est-ce que c'est parce que le sujet du programme plaisait plus et qu'il y avait plus de personnes intéressées par ça? Ça, c'est difficile à dire, en fait. Je ne peux pas vraiment le savoir. Donc, je considère plus que c'est à moi de faire cette exploration et atteindre ce moment où je me sens à l'aise parce que non seulement j'écris des emails qui me ressemblent, peut-être à un rythme qui me ressemble et qu'en plus, ça convertit. Donc ça, pour l'instant, c'est une exploration ouverte. Je n'ai pas encore de conclusion là-dessus. Je pense que c'est quelque chose que je vais continuer d'explorer à chaque fois que je vends en faisant un peu des tests pour voir comment je me sens, pour voir comment ça réagit. Il y a aussi, je précise un truc ici, c'est que je pense qu'il ne faut pas diaboliser le copywriting. Il ne faut pas penser que le copywriting, c'est de la vente en force, c'est utiliser les leviers psychologiques des gens de façon malsaine ou quoi. Pour moi, le copywriting, c'est de l'argumentation, c'est être capable d'expliquer très clairement ce qu'il y a dans son contenu payant, et c'est être capable en fait d'expliciter comment ça peut les aider. Et on croit parfois que ça, c'est une vente un peu trop, comment on pourrait dire, agressive, de dire ça va te permettre ça, et ça va te permettre ça, et c'est trop bien, et blablabla, et blablabla. Mais en réalité, je me suis rendu compte, moi, en tant que cliente, que les personnes qui ne précisaient pas ça, bah, je trouvais qu'elles me demandaient de faire plus d'efforts parce qu'elles me demandaient de trouver moi-même quel était l'intérêt du contenu. Et je préfère largement que ce soit la personne qui vend qui me le dise d'elle-même. Ça m'évite de réfléchir, ça m'évite... moi, j'ai la flemme, en fait, d'aller me poser toutes ces questions. Donc je préfère que la personne, elle me mette ça sur un plateau. Et le fait qu'elle me dise, bah, voilà ce que, à mon avis, ça va t'apporter parce que je sais ce qu'il y a dans le programme et je l'ai fait par rapport à un certain profil de personne, elle m'apporte ça sur un plateau et derrière, moi, je décide. Donc voilà, moi, comment je vois, on va dire, le côté copywriting et pourquoi je fais quand même un peu de ça. Après, je le fais quand même à ma sauce, c'est toujours plus long que d'autres personnes qui sont peut-être plus synthétiques en copywriting, mais en même temps, c'est moi de faire des choses, des écrits longs, donc c'est comme ça. Une autre question que je me pose dans cette exploration, c'est vis-à-vis de la fréquence. Et donc là, on touche directement à l'écologie personnelle, puisque donc moi, la méthode qu'on m'a apprise, que ce soit Antoine BM ou mon premier formateur en blogging, c'est de faire des lancements. Donc un lancement, c'est sur une semaine. Pendant une semaine, on va envoyer 7 emails, enfin un email par jour. Normalement 7, mais comme moi, ma newsletter commence, je l'envoie le mardi. En fait, j'annonce toujours dans la newsletter et ensuite j'écris finalement 6 emails et non pas 7, donc un par jour. Parce que donc l'idée d'envoyer plusieurs emails, c'est un peu que les personnes ne ratent pas l'information. Enfin, c'est à la fois que les personnes ne ratent pas l'information, parce que si on envoie juste un email, ben, elles peuvent peut-être le lire. Si elles se disent « Ah, oh, ben, c'est juste la newsletter, je la lirai la semaine prochaine », elles vont rater l'opportunité. Et c'est pas bien non seulement pour la personne qui vend, parce que du coup, bah, c'est un manque à gagner, mais c'est pas bien non plus pour, à mon sens, pour le client, puisqu'il peut être dégoûté d'avoir raté l'occasion parce qu'il n'avait pas lu l'email. Et donc, quand, le fait d'envoyer plusieurs emails, c'est comme si ça attirer l'attention de la personne sur le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Après, souvent, l'email qui attire le plus l'attention, je pense, c'est celui de la fin qui s'appelle « Dernier jour », où là, on pose la limite et on dit « bah voilà, en fait, maintenant, il faut prendre une décision. Après cette date-là, soit le prix va augmenter, soit tu n'auras plus tel ou tel bonus avec, etc. » Et ça permet aux personnes, je pense, de un peu se décider, se dire « est-ce que je le veux maintenant ou pas ?» Et donc, moi, je me pose une question sur la fréquence des emails, c'est-à-dire le fait d'envoyer ces 6 emails, un par jour pendant la semaine de lancement, parce que je trouve ça quand même assez prenant pour la personne qui vend et que je ne suis pas sûre que ce soit le plus efficace dans le sens où, moi, ce que j'ai l'impression d'observer, c'est que les personnes ne lisent pas forcément les emails tous les jours. Elles vont les lire à retardement. Donc, finalement, ce n'est pas parce que quand on envoie le premier email, si on fait pas de vente ou peu de vente, ça veut rien dire parce que c'est peut-être que les personnes n'ont pas encore lu et qu'elles vont le lire 4 jours après et que là elles vont prendre la décision. Ça peut être aussi, par contre, là où je trouve ça intéressant d'avoir vraiment de l'espace entre le premier et le dernier email, c'est que ça laisse du temps aux personnes de cheminer et de se demander si elles veulent faire ça ou pas. Dans un monde idéal, moi j'aimerais bien que la personne voit mon email et qu'elle soit tout de suite convaincue que c'est ce qu'il lui faut parce qu'elle sait que c'est quelque chose qu'elle veut faire dans sa vie à ce moment-là ou c'est ce dont elle a besoin. Il y en a pour qui ça marche, il y en a qui achètent comme ça quand vraiment ça tombe, on va dire, pile poil sur un besoin qu'ils avaient. Mais il y a des personnes où c'est différent, soit elles sont peut-être moins à l'écoute d'elles-mêmes, elles ne savent pas trop ou elles sont peut-être dans plus de flou, donc les décisions sont plus difficiles. Ou peut-être elles se tâtent parce qu'elles ne savent pas si elles veulent dépenser cet argent là-dedans ou pas. Je me demande dans quelle mesure les personnes ont besoin d'avoir les 6 emails pour prendre leur décision. Donc ça, c'est aussi un test que j'aimerais faire. Après, c'est un test entre guillemets à risque parce que si je fais le test d'envoyer moins d'emails pour un programme dans la semaine et que je fais moins de ventes, bon, bah, le truc, c'est que je ne saurais pas en plus si c'est à cause du sujet du programme ou si c'est à cause des emails. Donc ça, c'est toujours ce qui est un petit peu compliqué, je trouve, pour analyser et pour savoir comment vendre. Mais en tout cas, le test, par contre, ce qu'il peut révéler, c'est comment moi, je me sens avec cette vente. Et finalement, ce qui pourrait se passer, c'est qu'au lieu d'envoyer 6 emails, j'en envoie 3 ou 4, mettons. Et peut-être que je me sentirais bien avec ce chiffre-là par rapport à la quantité de travail que ça demande et peut-être que je serai aussi satisfaite du nombre de ventes qui a découlé. Ça, je ne peux pas le savoir. Il faut faire le test dans tous les cas. Donc, voilà, il y avait aussi cette réflexion en cours autour de la vente des programmes. Et après, il y avait encore une autre réflexion. C'est que moi, je suis assez convaincue que plus on est aligné dans ce qu'on crée, plus on va vendre parce que je pense qu'on va aimer encore plus ce qu'on a créé. On va peut-être avoir plus d'arguments parce que ça va être tellement logique et évident pour nous, la valeur qu'il y a dedans, qu'on va avoir envie de le vendre. On va avoir plus de clarté pour faire comprendre la valeur de ce qu'il y a dedans. Mais aussi, je pense que peut-être notre communauté, inconsciemment, quand on crée quelque chose qui est super aligné avec nous, elle va peut-être plus acheter. En tout cas, je parle de la portion de la communauté qui est là souvent, qui est régulière, qui suit ce qu'on produit, etc. C'est peut-être moins le cas pour des personnes qui viennent d'arriver, qui ne savent pas trop encore qui on est, qui n'ont pas encore bien compris quel angle on avait, quelle approche on avait, qui étaient plus là pour un sujet qu'ils ont découvert sur le blog. Eux, ils seraient peut-être plus intéressés par ce sujet-là. Donc, je pense qu'il y a, entre guillemets, à manger pour les deux. On peut faire vraiment des programmes 100% alignés avec soi et qui vont être peut-être plus achetés par les personnes qui nous suivent depuis un moment. Et des programmes qui soient alignés ou pas, en tout cas sur des sujets dont on sait qu'ils touchent les nouveaux arrivants. Je pense que c'est OK de faire les deux. Après, parfois, les nouveaux arrivants, en tout cas dans mon cas, ça me fait créer des programmes qui sont moins alignés parce qu'ils sont moins d'actualité pour moi Parfois, quand les nouveaux arrivants viennent via des articles que j'ai écrits il y a plus longtemps sur des sujets que je traite plus vraiment aujourd'hui. Là, moi, ce que j'ai, donc, j'ai voulu avoir une petite phase honnêteté avec moi-même vis-à-vis des deux programmes que j'ai lancés en novembre et que j'ai créés cet été. Et un peu d'essayer de jauger sur une échelle de 0 à 100% à quel point est-ce que je considère que c'est aligné. Alors, je ne sais pas si je le vois en fait comme une jauge linéaire ou peut-être plutôt comme la rosace de l'ikigai, c'est-à-dire que 100% aligné, ça correspondrait à l'ikigai, ça voudrait dire... pour moi, en fait, 100% aligné, ça voudrait dire j'ai répondu, donc là, c'est une notion de design humain, c'est que il y a des sujets, quand je les vois passer, mettons que je parle avec quelqu'un, peut-être un lecteur, et qui me raconte ses problématiques, parfois, dans les choses qu'il va me raconter, je vais avoir une forme de réponse sacrale, donc que je sens dans le ventre, où d'un coup, je vais... En fait, c'est un peu comme une grosse excitation, voir des papillons dans le ventre à l'idée de créer quelque chose autour de ça. Je vais vraiment avoir une réponse où je me dis « Ah oui, mais ça, j'ai trop envie de traiter le sujet. » Et il y a non seulement, en principe, je pense qu'il y a le « j'ai trop envie » et en plus, je m'en sens capable. Donc ça, pour moi, c'est la réponse. Et je pense que ça donne les meilleurs programmes pour moi, les meilleurs contenus payants ou gratuits d'ailleurs aussi. Ensuite, la réponse, pour moi, ça correspondrait à la composante « j'aime » de l'ikigai. Et je peux. Après, le je peux, il peut être isolé parce que voilà, si quelqu'un me fait part d'un besoin, je peux me dire, bah oui, ça, je sais comment l'aider, mais par contre, ça peut ne pas m'exciter plus que ça. Bon, bah là, je suis dans le je peux, mais pas forcément j'aime. Ensuite, il y a dans la rosace, il y a la composante ce dont le monde a besoin. Bah, ce dont le monde a besoin, c'est le fait qu'on sache ce dont les gens ont besoin dans notre communauté. Parmi nos lecteurs, donc soit ils nous l'ont dit par email, soit ils nous l'ont dit à l'oral. Moi, je fais des appels privés parfois. Soit on l'a vu au travers d'un accompagnement où j'ai pu observer les besoins. Mais pour moi, voilà, dans ce dont le monde a besoin, je dirais qu'il y a un peu cette certitude que des gens en ont besoin qui rentrerait en compte. Et enfin, la composante « ce pourquoi je peux être payée », bon, bah là, c'est en principe, pour moi, ça serait directement lié à la composante « ce dont le monde a besoin » dans ce cas-là, qui est les besoins des personnes, parce qu'a priori, si elles ont le besoin, alors elles sont prêtes à payer. Donc, moi, j'aimerais bien, dans mon exploration, essayer de prouver ce que j'ai dit, ce en quoi je crois, à savoir que plus on est aligné, plus on vend. Et là, en l'occurrence, donc les deux programmes que j'ai vendus, bon, ils se sont vendus moyennement, je dirais, pas aussi bien que des programmes précédents que j'ai pu faire, mais mieux que d'autres que j'ai pu faire. Je les classerai dans une catégorie intermédiaire. Donc c'est bien que j'en ai fait deux parce que du coup, financièrement, un seul n'aurait pas suffi pour faire un revenu intéressant pour le mois. Mais deux, ça va. Et donc, la question que je me suis posée, c'est, en essayant d'être honnête avec moi-même, à quel point est-ce que je pense que ces programmes étaient alignés avec moi ? Et ben, je trouve, en tout cas, là, pour l'instant, ça va prouver ma conviction, qui est que je pense qu'ils étaient alignés de façon intermédiaire ou moyenne avec moi. Alors, pourquoi ? Pour le premier, embrasser sa nature... je l'ai fait en réponse. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de vivre quelque chose et je me suis dit, j'ai envie de transmettre cette méthode parce que moi, c'est en train de m'aider. Donc ça, c'était une réponse. Sauf que je l'ai fait en même temps que moi-même, j'étais en train de vivre la situation et de trouver des solutions pour moi-même. Et ça, pour moi, c'était pas très aligné. Alors, si je reviens sur une notion de design humain, j'ai l'autorité émotionnelle et l'autorité émotionnelle, elle demande du temps. Elle demande, même si on a l'envie, elle demande de prendre le temps de vérifier que l'envie reste et peut-être de prendre du recul avant d'atteindre la clarté pour savoir ce qu'on veut mettre dans ce programme. Ceci dit, si j'avais attendu, je ne suis pas sûre que j'aurais créé le programme parce que ça serait passé pour moi, cette situation, et je n'aurais pas forcément eu envie de remettre les mains dedans et de me dire « alors qu'est-ce que j'avais fait déjà ?» J'aurais eu la flemme et je n'aurais pas créé le programme. Donc, quelque part, c'était bien de surfer sur l'instant pour créer le programme, sinon ce programme n'aurait pas vu le jour. Mais ce que ça a créé derrière, c'est que je n'étais pas 100% à l'aise à le vendre parce que du fait que j'avais pas pris ce recul. Et je pense que j'aurais été plus à l'aise si j'avais vécu ma situation, trouvé mes propres solutions, pris du recul et que j'avais créé quelque chose derrière avec ce recul en disant bah voilà, avec le recul, je vois comment ça m'a aidé. Je vois aussi les limites, c'est-à-dire que peut-être que j'ai mis en place quelque chose que finalement je n'utilise plus par la suite. Ça m'aurait permis d'un peu plus voir les limites de ça. Donc, il aurait fallu que je laisse passer peut-être 2 ou 3 semaines avant de créer un programme autour de ça. Donc, après, c'est pas grave. Il est là, il a aidé des personnes, visiblement, qui m'ont fait quand même des retours positifs. Donc, tant mieux. Mais c'est juste que le manque de recul fait que moi, j'étais pas 100% à l'aise avec ce programme que j'ai créé et du coup avec le fait de le vendre. Heureusement, j'avais déjà préparé les emails, donc j'ai pas trop eu besoin de rebosser dessus. J'avais préparé les emails au moment où je l'ai créé cet été. Donc voilà, en tout cas, je vois une corrélation entre le fait que j'étais pas 100% alignée avec moi-même vis-à-vis de ce programme et le nombre de ventes. Et pour le deuxième qui est sur le blogging, donc là, je ne l'ai pas fait en réponse énergétique, je l'ai fait en réponse mentale. C'est-à-dire que j'ai observé, enfin, je savais que dans plusieurs discussions que j'avais eues avec des lecteurs, il y en a pas mal qui voulaient créer des blogs. Et je me suis dit, bon, ben, je sais qu'il y a ce besoin, donc ça correspond à la composante « ce dont le monde a besoin ». Si les gens ont ce besoin, je peux être payée, donc la deuxième composante, c'est bon. Et je sais que je peux le faire puisque je suis blogueuse depuis 4 ans, que j'ai du recul dessus, que j'ai été formée, donc j'ai la connaissance et le recul en plus pour parler de ce sujet. Et justement, j'ai choisi l'angle en plus de l'essentiel du blogging, c'est-à-dire que au lieu de tout rebalancer sur une méthodologie qui se ferait sur 7 mois à 1 an, j'ai pris vraiment ce qui, moi, me paraît le plus percutant à faire pour avoir un blog qui marche et qui vraiment permet de démarrer avec un coût qui est quand même bien moindre qu'une grosse formation. Donc tout ça, c'était logique et c'était mental. Après, voilà, là où c'était pas aligné à 100%, c'est que ça me passionne pas de devoir expliquer comment moi je fais du blogging. C'est pas ça qui m'intéresse dans ce que je transmets. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écologie personnelle. Donc j'en parle dans tous mes programmes, il y a de l'écologie personnelle, mais du coup, là, je traite un sujet en mettant de l'écologie personnelle, mais je ne traite pas un sujet d'écologie personnelle. C'est un sujet plus métier, c'est un sujet d'énergie masculine, finalement, de comment on fait quelque chose. Et ça, en tout cas, sur ce sujet, ça me plaît moins. Donc, ça me fait un peu plus forcer et c'est un peu moins agréable pour moi de créer un programme là-dessus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je voulais quand même le créer parce que voilà, je me suis dit, il y a un besoin, il y a quand même quelque chose. Il faut que ce soit fait parce que ça me traînait dans la tête depuis trop longtemps. Je me suis dit, voilà, maintenant, à chaque fois que j'aurai quelqu'un qui veut se lancer dans le blogging, ben, je pourrais toujours le renvoyer vers mon programme. Donc, ça me permet d'enlever ça de ma charge mentale et de faciliter la vie de mon futur moi qui n'aura plus à répondre aux questions individuellement et qui pourra directement renvoyer vers ça. Donc ça, c'est bien, mais ça n'a pas été super agréable pour moi de créer le programme. Donc je l'ai vraiment fait rapidement en fait, j'ai essayé de pas me poser de questions, je me suis dit il faut que ce soit fait, je le fais, chaque jour j'ai avancé petit à petit de vidéo en vidéo, bah, à la fin je suis arrivée à la fin, j'avais tout fait et sans que je m'en aperçoive parce que je me suis mise dedans, je m'en suis occupée et puis voilà c'était fait. Mais ça, voilà, c'est pas quelque chose qui est sorti d'une réponse sacrale, enfin ce que j'appelle aussi réponse énergétique où vraiment quelqu'un m'aurait dit « je veux lancer ». La réponse énergétique, ça aurait été quelqu'un avec qui je discute ou par email me dit « voilà, j'aimerais lancer un blog, mais je ne sais pas comment faire ». Et que moi, d'un coup, je me dise « ah, mais génial, ah, je suis super excitée à l'idée de créer un programme pour aider cette personne parce que j'adore parler de ce sujet et que juste je sens les papillons dans le ventre et que c'est excitant pour moi de créer ce projet ». Ça, ça aurait été une vraie réponse. Moi, je n'ai pas eu cette réaction. Ma réaction était purement mentale, c'est de me dire « bon, je peux ». Les gens en ont besoin, j'en ai marre d'y penser et de ne pas le faire, donc faisons-le. Et ça, voilà, je ne sais pas si tu vois en quoi ce n'est pas 100% aligné. Pour moi, l'alignement, il y a vraiment quelque chose aussi d'émotionnel et d'énergétique. Il y a vraiment, il faut qu'il y ait de l'excitation au fait de créer quelque chose et qu'on soit profondément convaincu qu'on a envie de parler de ça et qu'on a envie d'aider les gens là-dessus. Et c'est OK de ne pas créer des programmes toujours alignés parce que, bah, on n'a pas forcément toujours non plus ces réactions. En fait, on n'a pas toujours cette excitation. Or, comme on doit quand même générer un revenu, bah, parfois, je pense que ça vaut le coup d'être peut-être un peu moins sur l'excitation et de juste créer quelque chose dont les gens ont besoin. Il y en a qui vont être contents, ça va les aider. Moi, ça me ramène un peu de revenus. Et voilà, et tout le monde est content. Mais c'est pas... voilà, moi, dans un monde idéal, j'aimerais ne créer que des programmes où vraiment je suis trop à fond et j'adore les vendre. Et parce que je suis trop à fond et que c'est 100% aligné avec moi, ben, ça se vend super bien et les gens adorent. Donc le reste, tu vois, c'est intermédiaire. C'est un peu par défaut, c'est pas grave, ça sert à des gens. On a quand même fait quelque chose, on a de l'argent qui est rentré. On peut capitaliser dessus derrière puisque, comme je le disais, par exemple sur le blogging, je peux renvoyer les personnes vers ça dès qu'elles veulent créer un blog. Mais c'est pas pour moi ma situation idéale d'épanouissement et d'écologie personnelle. Donc ça, ça fait partie de toute l'exploration. Où, bah, ça, c'est les... En vrai, c'est l'exploration que je fais depuis 2019, hein, depuis que j'ai commencé à créer des programmes. J'essaye de comprendre à l'intérieur de moi quels sont, de trouver un peu ce processus depuis le point A qui serait cette réponse de, voilà, de sentir l'excitation sur un projet et de me dire « Ah ouais, j'ai envie à fond ». Attendre un peu le recul parce que j'ai besoin de ça pour confirmer, en fait, pour être sûre. Derrière, moi, je pense que, toujours pour parler de design humain, j'ai une ligne 1, c'est l'investigateur, c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup d'informations pour avoir des fondations solides. L'information, dans ce cas-là, pour moi, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, beaucoup d'informations sur le besoin de la personne pour être sûr que ce que je fais est en train de répondre à son besoin. Et deux, beaucoup d'informations sur ma réponse, enfin, sur la solution. Donc, si je décide d'apporter une solution avec une certaine méthode ou un certain type de connaissances, je vais peut-être avoir besoin d'aller lire des livres en plus sur le sujet, de vraiment creuser au fond de moi ce que moi je sais sur ce sujet, en tout cas de un peu potasser le truc pour être sûr de mes fondations, pour être à l'aise quand je crée le programme et quand je le vends. Et voilà, donc ça, c'est, je suis dans cette exploration pour trouver ce processus et essayer de le suivre. Parfois, je ne peux pas être dedans, donc je fais des programmes un petit peu plus mentaux. Et comme je disais, moi, je considère que c'est OK en attendant, tant que ce n'est pas un truc qui va me stresser de fou et que je déteste. Hein, ça, je ne le fais pas, par contre. Mais quand il y a quand même suffisamment de feux verts pour le faire et qu'il y a juste un ou deux feux rouges, je peux y aller. Donc, voilà cette réflexion sur cette exploration autour de, bah, de la corrélation entre les ventes et l'alignement des programmes. Et je vais terminer par un dernier point de qui s'est passé cette semaine. Comme je te le disais au début de cet épisode, en phase de règles, moi je suis un peu dans une phase un peu plus introspective où je vais prendre un peu du recul sur ce qui s'est passé le mois d'avant, mais c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement. Je ne me donne pas forcément rendez-vous tous les mois pour le faire, mais mon énergie m'amène à faire ça. Vu que je n'arrive pas à faire beaucoup de choses, je n'arrive pas à écrire des articles, à être dans cette énergie masculine d'action et de production, bah, du coup, naturellement, je suis dans cette énergie plutôt d'observation et de ressenti, de me dire ben, « Ok, où est-ce que j'en suis ? Est-ce qu'il n'est pas le temps, il n'est pas temps de mettre à jour un peu mon projet ?» quelles sont mes envies, est-ce qu'il y a des choses que je dois laisser partir, est-ce qu'il y a des choses que je dois faire rentrer dans mon business boule à facettes. Et cette semaine, ce qui est ressorti, donc pour faire ça, en fait, je me suis appuyée sur des questions d'une autre personne. Parfois, je fais une introspection avec mes propres questions, où je me dis, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire, voilà, je sors mes propres questions, mais parfois j'aime bien aussi m'appuyer sur les questions d'autres personnes. Donc là, j'ai ressorti les questions d'un programme que j'ai suivi en mars, qui est un programme d'Amanda Frances, dont je t'ai parlé déjà dans cet épisode. C'est un programme qui, de base, est orienté autour, donc ça s'appelle « Sell from your soul », donc c'est « Vendre à partir de son âme ». Et c'est à la fois des questions pour trouver ce qu'on a envie de vendre et pour dépasser ses croyances limitantes liées à l'argent. Donc là, moi, j'étais pas, mon but, c'était pas de dépasser mes croyances limitantes, c'était plutôt d'utiliser les questions liées qui permettent de faire émerger les désirs du moment pour m'appuyer là-dessus, pour me re-questionner sur ce que je voulais mettre en place dans mon projet ou quoi. Et donc, alors, je prends des pincettes par rapport à ce qui est sorti parce que avec l'autorité émotionnelle, j'ai besoin que du temps passe pour vérifier que c'est effectivement ça que je veux faire. Mais c'est pas grave, je peux quand même parler de ce qui est ressorti parce que ça, je trouve que ça montre que ça peut faire sortir de nouvelles idées ou ça peut faire changer le focus que j'avais jusque-là. Donc typiquement là, ce qui est ressorti, c'est que c'est vraiment le sujet de l'écologie personnelle et c'est de me dire que j'avais envie d'être davantage centrée sur ces sujets-là. Donc tu vois, le business boule à facettes, par exemple, c'est pas un sujet d'écologie personnelle, c'est un sujet que j'appelle plus métier, de concrétisation, c'est comment est-ce qu'on crée un entrepreneuriat avec des activités multiples. Bien sûr, j'intègre l'écologie personnelle parce que pour moi, c'est impossible de pas l'intégrer, mais l'intention de base, elle est yang, elle est je veux faire un truc, je veux faire ça, j'ai une direction et j'y vais. Quand je dis que je veux plus me centrer sur l'écologie personnelle, c'est du coup avoir des programmes yin, des programmes qui soient directement orientés sur un sujet d'écologie personnelle et qui n'amènent pas à essayer de faire quelque chose, mais qui va amener à s'écouter, à découvrir qui on est et à respecter son écologie personnelle. Parce que moi, je pense que c'est mon dada, l'écologie personnelle. En fait, c'est le truc que je fais tout le temps pour moi-même, c'est le truc auquel je pense le plus. J'écris dessus, je porte des réflexions pour moi-même, je le teste sur le terrain sans arrêt. Donc je pense que si je devais donner une expertise, c'est celle-là. C'est mon expertise. Donc j'ai senti que j'avais envie de me recentrer là-dessus. Et tu vois, je te disais que parfois cette période, elle peut, enfin ce type de réflexion peut aider à changer le focus. Ben, typiquement, quand j'ai décidé le contenu de mon business boule à facettes pour les 4 prochains mois, j'avais inclus une ligne programme écologie personnelle pour dire que voilà, j'ai envie de créer soit des programmes, soit autre chose de payant autour de ce sujet, mais c'était pas du tout une priorité pour moi. Limite, j'avais la flemme d'y penser, j'avais pas envie d'y penser, j'étais pas du tout dans le truc. Pendant les 4 premières semaines, j'étais plus centrée sur le bootcamp papillon, la serre au papillon, les programmes qui avaient déjà été créés et que je voulais lancer, mais du coup là, c'était avec une intention stratégique de générer des revenus. Et je pensais pas trop à ces programmes. Je pensais aussi à mon livre sur le célibat heureux. Je pensais à tous mes projets autour de la décoration d'appartements et de la fabrication de meubles DIY et surcyclés. Mais j'étais pas sur les programmes d'écologie personnelle. Et cette semaine, pouf, c'est revenu. Et vraiment, ça a un peu fait changer mon focus. C'est-à-dire que, en fait, depuis la semaine dernière, je me sens moins sur le truc de l'appart. Je sens que j'ai moins envie de faire ça en ce moment. Et par contre, qui est venu un peu remplacer ça, c'est l'écologie personnelle. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être l'énergie de l'hiver. Je suis peut-être plus dans quelque chose de cocooning où j'ai envie d'être à l'intérieur, d'écrire là-dessus, de porter des réflexions. C'est peut-être parce que j'étais dans cette énergie cette phase de mon cycle féminin qui fait que j'étais dans cette énergie-là qui me donnait envie de penser plutôt à ces sujets. C'est pour ça aussi que j'attends un peu avant de conclure qu'effectivement, je veux aller à fond là-dessus. Mais en tout cas, c'est ressorti et ça m'a permis de le remettre un peu sur le devant de la scène. Et après, la deuxième chose qui est ressortie, c'était quelque chose d'un peu plus stratégique. Alors après, c'est lié à l'argent. C'est ce que je vais résumer en le parcours utilisateur. C'est que je me suis dit... je vais t'expliquer le processus mental que j'ai eu par rapport à ça. Une des questions d'Amanda était quelque chose comme si tu pouvais tout avoir et que tout était possible, ou je sais pas quoi. Enfin, tu sais, une de ces questions en mode t'as pas de limite, qu'est-ce que tu veux? Et une réflexion qui est venue, c'est que j'aimerais ne pas trop avoir à me soucier de la vente, justement. J'aimerais, parce que là, avec le lancement de 2 programmes dans le mois, j'ai trouvé que c'était assez intense quand même. Ça m'a amené à passer beaucoup de temps à réfléchir à comment vendre. Et je trouve que ça ne me va pas bien comme équilibre. J'aimerais passer un peu moins de temps sur cette réflexion. Et du coup, ce qui a découlé de ça, c'est que je me suis dit que j'aimerais bien, en fait, sûrement optimiser mon site de façon à ce que les personnes qui arrivent, elles aient un meilleur parcours utilisateur et qu'elles puissent facilement repérer les programmes qui les concernent pour qu'elles puissent aller les acheter hors lancement, en fait. Donc après, j'ai pas l'intention d'arrêter les lancements pour l'instant, mais ça, c'est plus une forme d'optimisation, de dire, en fait, il y a toutes ces personnes qui pourraient être intéressées par ce que j'ai créé et elles pourraient acheter un peu au fil de l'eau au fur et à mesure et ça pourrait me faire une petite base de personnes qui achètent régulièrement, une base de revenus. ce qui soulagerait un petit peu le fait de devoir créer un revenu complet chaque mois. Après, bon, moi, je ne suis pas trop stressée vis-à-vis de l'argent. Depuis fin 2020, j'ai fait un travail là-dessus et je me suis complètement relâchée, en fait, vis-à-vis de ça. Il se trouve que j'ai de la chance d'avoir de l'argent de côté, donc je n'ai pas le couteau sous la gorge. Et ça me permet de m'autoriser à pas vendre certains mois si je ne veux pas, ou à pas me forcer à vendre absolument et pas être dans cette pression et ce désespoir de vendre. Mais ça n'empêche que j'ai quand même envie, enfin voilà, mes ressources ne sont pas illimitées non plus, et j'ai quand même envie de construire un système qui pourra remplacer en fait cet argent que j'ai de côté, remplacer cet argent par une source un peu plus fiable et un petit matelas, on va dire, qui arriverait plus régulièrement. Ça, c'est un peu, je pense, l'intention qui est sortie de ces réflexions, de cette introspection, et la concrétisation dans la matière de ça qui est ressorti, ça serait cette optimisation. Donc, ça serait avoir un site un peu simplifié ou peut-être même un peu ludique. Il y a beaucoup de choses qui sont ressorties autour du jeu aussi, donc du jeu J-E-U, dans cette introspection, l'envie à la fois, moi, de m'amuser dans ce que je fais, que ce soit fun, en fait, la création, que ce soit fun, la vente, que tout soit fun, y compris aussi le site, que ce soit fun pour les gens qui arrivent, même si je pense que je suis peut-être perçue comme quelqu'un plutôt de sérieux, et je suis quelqu'un de plutôt sérieux dans, en tout cas dans ce que je crée, dans mes analyses, etc. Mais je pense que ce côté fun me manque un peu, ça fait aussi partie de la vie et de mes facettes, j'imagine. Donc le parcours utilisateur serait un moyen de rendre le site plus ludique et que les gens ils soient contents, au-delà de découvrir le fond, qu'ils soient aussi contents de la navigation sur le site, et que ça les amène à dire « Ah bah oui, tiens, ça serait intéressant comme programme, ah ouais, vas-y, j'ai envie de le faire », voilà. C'est un peu ça le processus que j'aimerais qu'il se passe idéalement. Donc pareil, je laisse décanter cette idée. C'est pas la première fois qu'elle vient, j'ai dû la voir 3 ou 4 fois déjà, et j'ai même souvent, quand j'ai eu cette réflexion, poussé la réflexion jusqu'à imaginer le nouveau site, etc. Mais j'ai jamais sauté le pas, parce que, je sais pas, après ça a changé. Donc peut-être que ça avait juste besoin de cheminer, peut-être que là j'ai cette envie mais que ça va repartir, je ne sais pas. C'est pour ça que j'attends un petit peu, parce que ça va demander quand même un peu de temps si je fais ça, de réfléchir à comment changer, de trouver comment le faire techniquement, etc. Après, tu vois, typiquement, quand je dis que je suis moins à fond sur le projet de meubles, etc., là, la réflexion que je porte, c'est est-ce que je pourrais avoir une semaine faite uniquement d'écrits, donc mes projets de livres, mes projets de programmes autour de l'écologie personnelle, mes contenus gratuits, ou est-ce que ça ne va pas me manquer d'avoir un projet qui est peut-être plus dans le corps, en fait, parce que la décoration, pour moi, tu sors de l'ordi, t'es debout, t'es en train de bouger pour bouger les meubles, pour aller chercher de la déco et tout. Et je pense qu'en termes d'écologie personnelle, j'ai peut-être besoin d'avoir pas que des projets intellectuels, mais aussi des projets un peu physiques. Donc là, j'ai moins l'envie en ce moment de me pencher dessus, mais je me dis que je vais peut-être sentir que j'ai besoin quand même de conserver ça et peut-être, entre guillemets, de me forcer à avoir quelques plages horaires autour d'un sujet comme celui-là. Donc, à voir. On verra dans les prochaines semaines. Ensuite, j'ai encore 2 ou 3 choses desquelles te parler. J'ai une nouvelle idée qui est venue pendant la semaine, mais pareil, je prends mes précautions. On attend de voir si ça dure. L'idée, c'est que je suis en train d'écrire 2 livres. 2 livres, pas de fiction, hein, des livres plutôt de type essai. Et moi, j'ai ma propre méthode pour les écrire parce que je sais de quoi je veux parler dedans. Je ressens pas le besoin d'avoir quelqu'un qui me donne une méthodologie ou une trame. Je pense que je peux les écrire naturellement. Mais en fait, par contre, je suis curieuse de savoir comment les autres personnes ont écrit leurs livres. Et peut-être, voilà, pour voir comment elles s'y sont prises, c'est plus de la curiosité et de me dire peut-être qu'il y a des choses qu'elles ont fait qui peuvent me faire écho, pourquoi pas essayer, peut-être des petites routines, des trucs qui sont fun justement, qui rendent la chose sympa. Et voilà, je sais pas, j'ai envie un peu de visualiser comment les autres ont fait. Sauf que quand j'essaye de me renseigner sur le sujet, je ne trouve que des conseils pour les auteurs de fiction. Et moi, c'est pas du tout de la fiction que je veux écrire. Donc là, je me suis dit peut-être que je vais écrire un livre sur comment écrire un livre, mais pas de fiction. Donc voilà, bon, ça me fait rire parce que c'est... déjà, j'aime bien la mise en abîme et j'aime bien quand j'ai des nouvelles idées, ça me fait toujours rire d'avoir de nouvelles idées. Mais il y a 2 semaines, j'ai eu aussi une autre idée de livre. Et tu vois, finalement, pour l'instant, j'ai décidé de pas la suivre parce que je pense qu'elle n'est pas assez mûre et je suis pas sûre de ce que je veux mettre dedans. Donc celle-là, c'est pareil, elle est trop récente. J'attends de voir si j'ai envie de la poursuivre ou pas. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas d'écrire plusieurs livres en même temps. Au contraire, parce que je préfère traiter différents sujets. Justement, ben, ça m'amène au deuxième point dont je voulais te parler en cette fin d'épisode, qui est la différence des sujets traités. Donc, à chaque fois que je dis que j'écris des livres, la première question, c'est un peu sur quel sujet, quel type de livre. Donc, la première réponse, c'est que ce n'est pas de la fiction, c'est des essais. La deuxième réponse, c'est de dire les sujets que je traite. Et la troisième réponse, là, c'est plus vis-à-vis de mon écologie personnelle, c'est que de me rendre compte qu'il y a plusieurs catégories de sujets. Donc, par exemple, le business boule à facettes, je le mets dans la catégorie actualité. C'est mon actualité parce qu'en fait, je l'écris au fur et à mesure que moi-même, je construis mon business boule à facettes et au fur et à mesure que j'aide ma cliente à construire le sien. Donc, si tu veux, c'est pas un livre pour lequel j'ai déjà l'information ou déjà la ressource pour pouvoir l'écrire d'une traite comme ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle un sujet d'actualité. Et à la deuxième catégorie, donc mon livre sur le célibat heureux, là, c'est différent puisque, au contraire, je considère être sortie de 3 ans de travail sur moi sur ce sujet. Et là, je me sens dans une autre phase de ma vie. Je pense que, entre guillemets, je suis un peu arrivée au bout de mon chemin en ce qui concerne le célibat heureux, même si ça se maintient et il y a encore des... Tu peux toujours faire plus, mais en tout cas, 98% du travail est déjà fait. Et du coup, là, cette envie de livre vient plutôt de cette envie de clore ce chapitre et de donner dans un contenant qui est le livre un peu tout ce que j'ai appris pendant ces 3 ans sur ce sujet pour pouvoir clore le chapitre. Et maintenant, voilà, si on me pose des questions sur comment j'ai fait dans cette partie de ma vie, je pourrais renvoyer vers ce livre et dire « bah écoute, j'ai tout mis là-dedans, tu auras plus d'infos que si je te raconte là rapidement ». Donc tu vois, ça c'est différent et c'est ce que j'appelle plutôt la catégorie souvenir puisque moi je suis après la phase et je raconte quelque chose qui s'est passé dans une phase antérieure. Donc je trouvais ça intéressant en fait de catégoriser les sujets comme ça. Tu vois, si je fais celui « comment écrire un livre d'essai », là, je reste sur un sujet d'actualité puisque moi-même, je suis en train d'écrire des livres sur ces sujets-là. Donc, ça sera encore une fois un livre où je vais mettre ma propre méthodologie et où je vais peut-être rajouter la méthodologie aussi d'autres personnes, où je vais peut-être aller chercher de l'information. Donc, moi, je dissocie voilà, ces deux catégories. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que dans mon écologie personnelle, je sens que j'aime bien avoir ces deux catégories. Peut-être que j'ai pas envie d'avoir que des livres d'actualité parce qu'en fait, t'es un peu, il y a légèrement cette frustration de devoir attendre de cheminer toi-même pour pouvoir écrire le livre. Alors qu'un livre sur un sujet qui est terminé pour moi, je peux le terminer quand je veux en fait. C'est juste une question de m'y mettre et écrire et réussir. Alors après, ce qui est un peu compliqué, c'est de réussir à rassembler les souvenirs pour me souvenir de ce qui s'est passé pour moi. Ça, c'est pas forcément facile parce que sur 3 ans, bah, ça remonte à loin quand même et je me rappelle pas forcément ce que j'ai fait exactement. Donc, ça me demande un peu de travail. Mais en tout cas, j'aime bien le fait d'avoir ces deux dynamiques, une qui est tournée vers le passé et une qui est tournée vers le présent. Donc, voilà un peu cette petite réflexion. Et dernier sujet, je me suis rendu compte. Donc là, je vais parler de croyances limitantes par rapport à l'argent. Dans ma phase d'introspection, vu que les questions d'Amanda, parfois, elles sont tournées autour de l'argent, bon, parfois, je répondais à une ou deux, ou même, voilà, quand elle demande quelle est notre situation idéale, je répondais. Et je me suis rendu compte, mais encore une fois, je fais toujours attention que ce à quoi je pense dans une phase, pendant une semaine, ne veut pas dire que c'est quelque chose que je pense tout le temps. Donc, c'est pour ça que je laisse passer du temps pour voir si cette envie ou cette façon de penser perdure. Mais en tout cas, cette semaine, je me disais que dans un monde idéal, j'aimerais vendre... Bah, du coup, moi, j'aimerais surtout gagner ma vie en écrivant des livres et des programmes, mais qui, du coup, sont plutôt des petits programmes avec des petits prix. Petits prix, ça va de 7 euros à 100 euros pour moi. Donc, 7 euros, c'est très petit prix. Après, il y a les moyens prix. Et je me suis rendu compte que j'avais une croyance limitante liée au petit prix. Et c'est rigolo parce que en principe, on a plutôt la croyance limitante inverse. Souvent, on a des croyances limitantes liées au fait de vendre cher. On a peur de vendre cher parce qu'on a peur que si on vend cher, on n'ait pas de clients. Et moi, ça, je l'ai travaillé depuis le septembre 2020. J'ai travaillé là-dessus et finalement, j'ai cassé ces croyances et j'ai réussi à vendre des accompagnements à 2000, 3000, 4000 euros. Donc même si ça reste un challenge, à chaque fois que tu montes le prix, parce que tu ne l'as encore jamais fait, c'est toujours nouveau et à chaque fois que c'est nouveau, ce n'est pas forcément facile. C'est un peu challengeant. Mais je l'ai fait et j'ai poussé un peu mes limites pour continuer de casser le plafond, on va dire. Et ce qui est rigolo, c'est que je ne l'ai pas trop fait dans l'autre sens. Et moi, on dirait que ma croyance limitante liée à l'argent, elle est sur les petits prix. C'est si je mets un petit prix, je ne vais pas gagner assez. Alors qu'en soi, ça ne veut rien dire parce que si tu mets un petit prix, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait plus de personnes qui l'achètent. Alors que si tu mets un gros prix, il y a moins de personnes. Donc en fait, au final, ça peut se valoir. Mettons que je vende quelque chose à 20 euros et que je le vende on va dire 10 personnes pour faire simple. 20 euros, 10 personnes, ça fait 200 euros. Si je crée un programme à 200 euros, je vais sûrement peut-être pas avoir 20 personnes, mais je vais au moins en avoir une. Bon, en principe, quand même un peu plus. Mais c'est juste pour comparer. En principe, en termes de chiffre d'affaires, on peut s'y retrouver entre quelque chose qu'on a vendu à 20 euros à plus de personnes et quelque chose qu'on a vendu à 200 à moins de personnes. Donc après, je pense que c'est un choix typiquement d'écologie personnelle. Je sais que par exemple, moi pour mes accompagnements, je ne veux pas avoir beaucoup de personnes. Donc le fait d'avoir un prix élevé, ça me permet de filtrer tout de suite ceux qui sont prêts maintenant parce que c'est leur priorité, parce que c'est un gros problème pour eux. Et moi, ça me permet d'avoir peu de personnes tout en étant bien rémunérée pour. Quand je fais des programmes en ligne, c'est l'inverse. Je préfère avoir beaucoup de personnes parce que c'est des programmes sans coaching, sans accompagnement. Donc moi, une fois qu'ils sont faits, ils sont faits. C'est quelque chose de scalable. C'est-à-dire que moi, je le fais une fois. Qu'ils se vendent à une personne ou à 1000 personnes, c'est exactement la même chose pour moi. Et sachant que le seul truc que ça peut changer, c'est le support client. C'est-à-dire si les personnes posent des questions et tout. Mais moi, je l'ai fait d'une manière qui... il n'y a pas un support intégré au programme. Il y a le programme. Après, si vraiment... il y a une question, je peux répondre, mais c'est pas, ça ne fait pas partie de la promesse, tu vois, quand je crée le programme. Donc moi, pour les programmes, par contre, je préfère avoir plus de personnes. Donc, je pense qu'en termes d'écologie personnelle, c'est intéressant de se dire, quel prix j'ai envie de mettre pour avoir combien de personnes et quel est le prix que je sens comme juste et avec lequel je suis à l'aise pour moi, mais aussi pour les gens, qu'est-ce que je trouve juste. Et donc, moi, je pense que là, c'est rigolo parce que je vais essayer de travailler sur cette croyance vers le bas. Cette croyance que si je vends à petit prix, ça va pas se vendre. Enfin, ça va pas se vendre assez. Donc, je vais le faire à la fois par le terrain, je pense, en faisant des petits prix. On verra. Ça dépend ce que je crée. Parce que je vais pas mettre un petit prix juste pour mettre un petit prix. Il faut quand même que ça corresponde à la valeur qui est proposée. Je vais pas mettre 20 euros pour un truc qui en vaut 200. Donc on verra. Mais je pense travailler un peu sur cette croyance. Voilà pour aujourd'hui, je t'ai fait un gros bilan. Tu vois que même quand on n'est pas dans l'action, justement quand on est peut-être dans l'introspection, la réflexion, il y a pas mal de choses qui sortent. Bon, j'ai fait le choix de te raconter un peu ces réflexions, je ne l'aurais pas forcément fait dans les autres bilans où j'aurais été plus dans l'action, parce que ça reste assez personnel de te parler des croyances, de te parler de comment je vois les programmes, de mon alignement, etc. Mais cette fois-ci, je le sentais comme ça, c'est de ça dont j'avais envie de te parler cette semaine. J'espère que ça t'aura appris des choses ou que ça t'aura nourri d'une certaine façon ou que ça ait pu faire écho ou développer des réflexions chez toi. N'hésite pas à venir me le dire par email à isis@lesnouveautravailleurs.fr ou sous l'article du blog dans lequel j'ai publié cet épisode de podcast. Ça me fera plaisir de savoir ce que tu as pensé de cet épisode. Et je te retrouve la semaine prochaine pour le bilan prochain.